Clouseau la joyeuse et certaine volonté de marcher. Un coup d'oiseau, mon petit. C'est ça, c'est ça. Allez-en, vite fait. Une grande lampe et sac sur l'épaule. Et quelques kilomètres encore seront rongés. Et plus proche, l'eau douce et l'arbre et l'ombre. Et la pastèque et le mur auquel se heurter. Et le sommeil au pied du mur. Et l'ombre et la fraîcheur éternelle. Et des bouquets de menthe pour exorciser de ma bouche ce perpétuel goût de terre. Uso, Hena, paracalo. Fini, Luso, fini. À quand remonte la dernière ponction? Ce jour... Ce soir, on ira plus tardif qu'à l'habitude. Silence, Lise, silence. Voyage. Ne sors pas du voyage, ne t'écarte pas de la route. Voyage, voyage, surtout ne pas en sortir. Kilomètres de route droite, unique, des jours, des semaines, des mois de route sans détour, sans courbe. Autrefois paisiblement escorté d'arbres et baigné d'ombre et bordé de ruisseaux, mais c'était autrefois.
Mais c'était autrefois. Mais c'était autrefois, et c'est pourquoi Lise dit-elle « mais c'était autrefois ». Ce personnage de Lise est quand même très spécial parce qu'on peut se faire toutes sortes d'images quand on la rencontre. Et j'aimerais bien qu'à vous trois, chacune dans le rôle que vous y avez joué, Liliane Tondelier, quand tu as imaginé sur scène Lise, comment tu l'as vue, Emmanuel, toi qui la joues, comment tu la ressens, et Magali, toi qui la chante et qui chante sa mémoire, son passé, son vécu, son autrefois, comment tu la ressens. Cela m'intéresserait que vous me donniez chacune l'image que vous avez au fond de vous-même de qui est Lise. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. Elle s'envoie des grimaces à chacune.
Lilia, alors, oui. On t'écoute.
Comment je la voyais, plus exactement, j'entendais quelqu'un de seul, aux prises avec un monde qui lui est étranger. Et pour moi, la solitude, ce n'est pas forcément d'être seul sur... sur une île, mais ça peut être seul dans un monde avec lequel on a de la peine à communiquer ou avec lequel on a des difficultés d'existence. Et Lise me semblait être plus particulièrement une comédienne ou une cantatrice qui, aux prises avec son passé, avec son monde... et avec lequel elle est en réaction et avec lequel elle est en recherche d'elle-même, de qui elle est elle-même, au fond d'elle-même, et avec des questionnements qui reviennent où elle ne sait plus, où elle a passé par des chemins, elle ne sait plus très bien qui elle est, elle ne sait plus très bien d'où elle vient ni où elle va. Et pour moi, c'était assez l'image d'une comédienne ou d'une cantatrice qui, à travers tous les rôles qu'elle a joués, est arrivée à un point de non-retour où soit elle va mourir, soit il faut qu'elle prenne un virage différent. Voilà.
Emmanuel ou Magali, est-ce que vous vous retrouvez forcément dans cette image qu'a vue Liliane? Ou bien est-ce que petit à petit, vous vous êtes créé aussi votre propre image de Lise, au fur et à mesure que vous avez goûté aux mots, aux images, à votre rôle?
Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai tout de suite adhéré à ce que proposait Liliane. Je trouvais que c'était une très belle idée de faire de Lise une cantatrice et de mettre le personnage de Lise en rapport avec Alcina, qui était cette magicienne seule sur une île et abandonnée de tous, plus ou moins, et de mettre la musique de Demierre en rapport avec la musique de Händel, qui a donc composé cet opéra de Alcina. Donc mon imaginaire a fonctionné tout de suite à partir de ça, je peux pas dire que je me sente Lise, mais je sens bien Emmanuelle quand elle est Lise, et ça m'est facile à ce moment-là de venir comme une espèce de vague de mémoire de temps en temps, lui souffler des choses à l'oreille, lui dire en quelque sorte rappelle-toi de ça, rappelle-toi ça. Et c'est comme ça que je ressens, moi, ce personnage. Je peux pas dire que j'incarne Lise d'aucune façon, mais je ressens bien le fait d'être sa mémoire et de l'exciter à certains moments, ou parfois de la décourager. Enfin, ça, je l'ai bien compris, je crois.
Mais pourtant, en tant que cantatrice, non seulement tu joues sa voix, si je puis dire, tu chantes sa voix, sa mémoire, mais tu es là physiquement devant nous, puisque Liliane a choisi que la cantatrice et le musicien soient des personnages présents sur la scène, pas seulement dans un fond musical. Mm-hmm. Donc les spectateurs et spectatrices ont une image de toi, tu représentes un personnage, ça forcément tu en as conscience.
Oui, alors je suis peut-être Lise autrefois, Lise quand elle chantait. Mais j'imagine que les spectateurs auraient tous une réponse différente à donner sur cette apparition de moi de temps en temps sur la scène. Le reste du temps, je suis plutôt en retrait. Je pense qu'il fallait pas, par exemple, tomber dans le piège de me mettre la même robe que Lise et d'en faire une espèce de goutte d'eau complètement identique. Je crois que je suis une autre Lise. Peut-être cette Lise qu'elle repousse et qu'elle recherche en même temps. Je pense que c'est important qu'il y ait une différence entre le personnage d'Emmanuelle et le mien.
Ben, moi, Emmanuelle, à toi.
Oui, ben, moi, je peux pas... Enfin, je veux dire, le cadre a été posé d'une façon très... assez précise... Le cadre, j'entends, de par Liliane. Et bon, je pourrais redire un petit peu ce que dit Magali, donc je vais pas le redire, mais bon, il y a une chose un peu trouble qui se réinvente, enfin qui se réexpérimente un peu chaque soir, quoi. C'est effectivement rien n'est non plus, même si il y a le cadre comme ça de la dans l'idée, dans le concret des choses, c'est pas dessiné à gros traits. Et c'est vrai qu'à la fois Magali peut être Lise, et puis à la fois. Et à la fois, elle est aussi une musicienne avec un musicien qui constitue un univers sonore avec lequel je suis ou contre lequel je me débat. Oui, un personnage. Donc, en fait, ce qui s'expérimente un peu tous les soirs et d'une façon par moments un peu vertigineuse, c'est qu'est-ce que. Oui, qu'est-ce qui nous attend, quoi ? Qu'est-ce qui nous attend les trois ? Et on est. Et il y a beaucoup de questions qui restent en suspens, et je crois que. Et c'est pas un mal, mais c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile à vivre, parce que ce texte aussi n'est pas facile à vivre. Il est très dur. Il est très dur au bon sens du terme, hein, mais. C'est pas une gaudriole, quoi, c'est sûr. C'est pas... on se tape pas sur les cuisses.
Mais justement, en parlant de ce texte, Emmanuelle, Lise et Lille, c'est des personnages féminins. Hein, et on parle de la mémoire, on parle de la musique, il y a la comédienne, tout ça c'est très au féminin. Mais malgré tout, c'est Jacques Probst qui a écrit ce texte. Jacques Probst, c'est un homme qui parle d'une femme. Ça, c'est toujours. On se demande toujours comment les hommes arrivent tout à coup décider de dire je, alors qu'ils sont. En parlant d'une... c'est une femme qui parle et ils disent « je ». Ça doit être un mouvement assez spécial. Mais toi qui joues « je » féminin, sachant que c'est un jeu masculin qu'il a écrit, comment tu ressens ça ? Et en plus, je crois que beaucoup des monologues de Jacques Probst ont été dits par lui. Donc les gens qui le connaissent, en Suisse romande ou ailleurs, ont quelque part l'intonation, la voix de Jacques Probst dans la tête aussi. Et tout à coup, c'est toi qui t'empares de ces mots.
Oui.
Est-ce que des fois, ça... Tu es dérangé par cette ambiguïté de ces jeux différents.
Il y a des moments qui font un peu rigoler parce qu'il y a des oui, on peut dire d'une certaine façon, par moment, c'est, tu dis, bah oui, c'est un gars qui a fait, qui a écrit ça, quoi. Mais
par exemple, tu pourrais nous dire à quel moment de temps en temps ça te fait clonglong bizarre, tu dis oulala.
C'est ça. Liliane, oui.
Ah non. C'est toi
le marin
qui me dis
reposé.
Ça.
Ah oui.
C'était quoi ça?
Non, mais c'est des petites anecdotes. Je sais pas, elle dit à un moment. C'est volutes sur les quais des terres larges qui montent le soir, des pipes des marins reposés, oui. et des pipes des femmes fatiguées, elles, mais heureuses. On s'est amusé un temps pendant les répétitions. Heureuses. Enfin, mais c'est anecdotique. C'est ce que je voulais... En fait, je pense très souvent à Jacques que j'ai rencontré, que j'ai pu entendre un peu lire des choses. Il m'a fait écouter des textes, parce que qu'on va peut-être entendre là le 30, j'espère pouvoir rester un jour de plus pour l'entendre. Si je pense à lui, ça m'arrive, mais c'est parce qu'il y a une sorte de c'est son écriture, c'est pas que ce soit un homme ou une femme, c'est pas vraiment le propos, enfin c'est pas ce qui me touche. Il y a une énergie, une chose, un rythme, et c'est plus ça qui me fait penser à lui. C'est pas de me dire ah oui, bah quel oh mais alors il y a une connaissance du cœur féminin ou de l'être féminin tout à fait exceptionnel. Je crois pas que ce soit le problème, enfin, pas pour moi en tout cas.
Dans ce monologue que tu dis, qui est quand même, comme tu l'as dit, un texte compliqué, parce que Lise tourne en rond dans sa vie, mais tourne en rond avec les mots aussi, bien évidemment. Le texte le fait ressentir, il y a des redites, et puis j'imagine que pour toi, ça doit être difficile de dire est-ce que c'est moi qui suis en train de me planter, ou est-ce que c'est vraiment lui qui redit, ou est-ce que j'en suis, etc.
Oui, ben d'ailleurs, je pourrais dire qu'une fois en répétition, j'ai haï chaque phrase. Oui.
Pourquoi ça?
Ah oui, non, parce que je l'ai dit. Oui. Non, parce que... parce que c'est vrai que c'est un texte très retors. Il est écrit en spirale. Enfin, c'est plus qu'une spirale, mais il y a beaucoup de choses qui reviennent et qui ne sont jamais tout à fait les mêmes, ni tout à fait autres.
N'est-ce pas?
Mais c'est ce qui en fait la richesse, quoi. Ouais. Étrangement.
Et en plus de la richesse et de la difficulté de ce texte, tu dois te mettre au rythme de la musique. Et ça, j'imagine que c'est aussi une chose très difficile et que vous avez dû travailler entre Magali Schwartz et toi. Liliane étant peut-être le chef d'orchestre, je ne sais pas où c'était Jacques Demierre. Mais comment avoir décidé les moments où vous vous rencontrez? Qu'est-ce que ça signifiait vous rencontrer au niveau de... Est-ce qu'il fallait compter les mesures? Est-ce que la musique du texte suffisait? Est-ce que vous, quand vous commencez à chanter, à jouer Magali avec Jacques Demierre, vous aussi, c'est difficile de vous glisser dans le texte? Enfin, comment s'est fait cette alchimie de la rencontre de la musique et du son qui... comme ce sera l'objet d'une discussion demain soir, se partage ce premier rôle et chacun, quelque part, doit le vouloir. Donc, ça signifie aussi parfois peut-être un affrontement.
Mais on a travaillé beaucoup là-dessus. On était autour d'une table avec nos partitions, le texte de Probst, et on a travaillé vraiment intensément, en tâtonnant pas mal, je dois dire. Parce qu'on cherchait à créer un troisième langage qui serait en fait texte et musique complètement mariés. Mais on s'est pas donné tellement de règles de base, si ce n'est d'éviter le côté illustratif. Il y avait par exemple un moment où elle parlait d'une sirène, et il se trouvait que... À ce moment-là, je me mettais à chanter et on avait l'impression vraiment que je faisais la sirène. Donc on a retravaillé le texte et la musique de façon à ce que ce passage-là ne soit pas illustré de cette manière. Et parce que ça aurait été trop simple, en fait, et un peu plat. Donc c'est une espèce de tissage. Moi, je dirais qu'il y avait pas mal de choses qui nous échappaient aussi. Dans cette création d'un troisième langage, des choses qu'il fallait avoir le courage de laisser un peu au hasard en se disant ça donnera quelque chose, mais on ne pouvait pas savoir exactement quoi. Ou alors il aurait fallu travailler 6 mois et puis s'enregistrer et puis réécouter. Et puis, mais c'était justement pas le propos, c'était de le faire plutôt plutôt d'un jet. Alors c'est, je crois, plutôt les spectateurs qui peuvent dire comment le mariage est réussi. Pour moi, personnellement, c'est plus difficile. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. J'ai une impression de cohésion sur l'ensemble du travail, mais il y a beaucoup d'endroits où je me dis voilà, elle parle, moi je chante ça, et le résultat il est quelque part au-delà de nous deux.
Au-delà de la rampe, oui, ouais. C'est-à-dire qu'on, ouais. Je crois que oui, on peut pas. Moi, ça m'est difficile. Hein. Mmh. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce travail, et justement ce travail de réflexion, de composition qu'on a fait quand même, qu'on a fait par moments très très ensemble. Quant au résultat, c'est vrai que c'est surtout le spectateur.
Mais c'est peut-être qui... le côté magique de la chose, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... C'est comme un parfum.
Et je pense même
qui
pour les
gens. Près de nous, c'est... mais nous, on le
même
sent
si
pas.
Toi, tu...
Non, moi, ce qui me passionne dans cette histoire et ce qui m'a passionné, ce qui était très dur à tenir, c'était vraiment l'aspect vertigineux dans lequel on travaillait, de tâtonner, de tenir mordicus à ce travail de tâtonnement dans le vertige, parce que je crois que la relation, elle existe à ce moment-là du vertige et pas dans quelque chose de vraiment ancré et de vraiment complètement sûr. Et c'est ces moments-là qui sont sublimes, mais c'est vrai que si on avait eu plus de temps, ça n'aurait pas été désagréable.
Et ça, dans une ambiance de création, c'est une chose qui est acceptée par tout le monde, ce tâtonnement ? Parce que, bon, je suppose qu'il y a toutes sortes de façons de travailler. On sait bien qu'il y a des metteurs en scène qui sont très autoritaires. Et on sait bien que de chercher, ça, c'est pas rassurant, toujours. En plus, d'autant plus, comme vous le dites, où on n'a pas beaucoup de temps. Donc, la recherche, c'est important, c'est intéressant, mais ça panique, non ?
Mais l'intérêt, c'était aussi qu'on tâtonnait, mais avec une Liliane terriblement ferme. Mais ça, c'est vrai.
Ouais, ouais.
Qu'elle savait
très sûre d'elle.
Elle savait enfin, depuis très longtemps ce qu'elle voulait faire de ce travail. Donc, elle tâtonnait avec nous et à certains moments, tout d'un coup, non, elle disait non, ça non. Ou bien ça exactement, oui, c'est ça. Donc, en fait, oui, on peut dire qu'elle était le chef d'orchestre avec Demière, qui lui créait sa musique aussi au fur et à mesure.
Tu veux dire par là qu'il y a des choses qui ont été écrites à la dernière minute,
dans la mesure
où il fallait
non,
s'adapter
je dirais pas
au
la
texte,
dernière
des
minute,
choses comme ça.
Mais la dernière semaine, oui, il y a des changements qui ont été faits encore la dernière semaine, et c'était bien.
Oui, ce qui était magnifique aussi, par exemple, c'est qu'au début, il était question que les musiciens restent à une seule place et qu'ils devaient rester ensemble, parce que la musique étant très difficile, ils ne pouvaient pas être éloignés. Jacques ne pouvait pas jouer en se déplaçant. Et puis tout à coup, on s'est aperçu qu'il pouvait jouer en se déplaçant, et tout à coup, on s'est aperçu qu'il pouvait chanter et jouer en étant éloigné. Et tout le travail s'est fait, mais vraiment la dernière semaine, on pourrait dire. Donc c'est vrai que c'était peut-être un peu paniquant pour les gens qui nous regardaient, c'est-à-dire l'équipe Jean-Claude Marais, Jean-Philippe Roy, qui pouvaient pas être complètement avec nous parce que c'était tellement particulier cette façon de travailler. Et ils devaient avoir des moments, ils devaient ressentir ces moments de vertige très, très très fortement.
Emmanuel et Magali, par moment, on pourrait carrément dire que vous chantez ou vous parlez en duo, puisqu'il y a vraiment des interstices de la parole et du chant. C'était une chose difficile. Comment vous vous êtes rencontrés dans ces moments-là ?
En fait, ça a été écrit très tôt, ça. Mm-hmm. Hein, ces trois petits moments ont été écrits
dès
très
le début,
tôt
on les avait,
par Jacques. Ouais. Et en fait, ça c'est, pour moi, en tout cas, ça s'est trouvé d'une façon... presque à mon insu. Hein. Bon, je suivais la partition au départ, puis après, bon, il y a eu des moments où je me disais, mais est-ce que je me suis pas trompée ? Je leur demandais. Et en fait, ça se... Et c'est des moments très savoureux. J'aurais souhaité qu'il y en ait plus.
Oui, c'était très, 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 très agréable à
c'est
vivre.
Très, ouais. À faire, c'est très, très agréable.
Alors, pour moi, c'était presque plus simple que pour toi, Emmanuel, parce que j'avais toujours la partition. Et non seulement... J'avais la partition, mais pendant une bonne partie des répétitions, j'ai gardé le texte. Donc, si par exemple, tu étais un tout petit peu avant ou un tout petit peu après, moi, je chantais un petit peu plus vite ou un petit peu plus lentement et je te rattrapais. Et petit à petit, ça s'est fait, ça s'est calmé. C'est-à-dire qu'on a eu nos points de repère, on arrivait mieux à s'écouter l'une l'autre. Donc, on est arrivé à danser ensemble, en quelque sorte.
Donc, du monologue de départ, Emmanuel, il reste une polyphonie magnifique, en quelque sorte.
Ah ben, oui, enfin, je dirais
plutôt il s'est créé.
Oui. quand même, je dirais par bribes, enfin, pas par longues bribes, par moment, mais... oui, il me semble qu'il y a, il y a des choses, mais ça, c'est parce que c'est aussi cette œuvre-là. Hein. Beaucoup d'interrogations, mais c'est très bien. C'est très, très bien.
Il y a beaucoup de choses que vous avez dites aujourd'hui que je me demande si en tant que spectatrice ou spectateur, on peut vraiment percevoir comme ça. Parce que, par exemple, Magali, tu as fait allusion à la proposition de Liliane d'utiliser Alcina. Par exemple, tu as décrit en deux mots l'histoire d'Alcina. Personnellement, je ne connaissais pas l'histoire d'Alcina. Et je ne suis pas sûre qu'on reconnaisse forcément les phrases musicales d'Alcina dans ce que tu chantes. Est-ce que les unes et les autres, cela vous gêne que les gens, peut-être, ne perçoivent pas en voyant le spectacle ce que vous y mettez? Question première, bien sûr, à toi, Liliane, qui a imaginé tout cela.
Non, non, du tout. Moi, si j'ai imaginé tout ça, et d'ailleurs, je n'ai pas du tout intégré Alcina dramaturgiquement, réellement, dans le spectacle, pour moi, ça reste du domaine de l'imaginaire, du surprenant, qui fait que, finalement, je crois qu'on reste à l'écoute parce qu'on est un peu étonné, qu'on est un peu suspendu, qu'on ne sait plus très bien où on nous emmène. Un peu comme quand on voyage, finalement, et quand on se retrouve dans un pays. Moi, je sais que je suis allée en Inde au Népal. Je n'avais plus aucun repère, ni de langue, ni de culture, ni de paysage. Et je crois que c'est dans des moments comme ça aussi où il y a quelque chose qui se passe, qui fait qu'on a une attention différente qui existe et on a une sensibilité différente qui peut être mise un peu à contribution et qui peut provoquer des émotions différentes de d'habitude.
Moi, ça me dérange absolument pas que les spectateurs voient autre chose. Je pense que de toute façon, un auteur de théâtre peut pas s'attendre avoir montré au spectateur exactement ce qu'il a mis au moment où il écrivait. Et la surprise pour lui, elle doit être parfois très grande, mais j'imagine parfois très belle aussi. Et puis, moi, j'aime assez cette sensation d'être l'instrument de quelque chose qui va se répandre comme ça dans la tête des gens ou dans leur cœur, mais sans que j'ai œuvré trop laborieusement, trop péniblement, pour leur asséner une vérité. J'aime bien laisser un peu les choses au hasard, oui.
Oui, enfin, ce qu'il faut surtout, c'est que les gens puissent rentrer, circuler ou être touchés. Ce qu'on a pu se raconter, finalement, n'intéresse pas les gens. C'est pas intéressant. On va pas. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si on les a touchés et si eux peuvent rendre quelque chose, quoi. S'ils ont été contents, c'est qu'ils ont fait leur chemin. Que ce qu'ils se sont racontés, ça nous échappe aussi beaucoup. Et heureusement, parce qu'ils ont leur vie et leur imaginaire. Et si on les a embarqués quelque part. Avec leurs histoires à eux, leur imaginaire, bah c'est bien, je crois.
Eh bien, je vous remercie toutes les trois d'être venues cet après-midi dans Honte Femme. Nous pouvons quand même donner quelques repères de dates à nos auditrices et auditeurs. D'abord, le spectacle se joue donc jusqu'au dimanche 29 janvier au Théâtre Saint-Gervais à Genève. Attention, du mardi au vendredi, c'est à 20h30, mais le jeudi, c'est à 19h, n'oubliez pas. Et ce jeudi 19 janvier, après la représentation, aura lieu un débat, une rencontre sur le thème dont nous avons amplement parlé maintenant, c'est-à-dire quand le texte et la musique se partagent le premier rôle, avec des invités plutôt de musique qui se confronteront aux créateurs du spectacle, puisqu'il y aura Philippe Albera de l'ensemble Contrechamp, Pierre Michaud, musicologue, et
Thierry Fischer,
chef d'orchestre. Oui, voilà. Alors, c'est, je répète, Théâtre Saint-Gervais jusqu'au 29 janvier, tous les soirs 20h30, sauf le jeudi, à 19h. Et merci à toutes les trois. Et un dernier extrait pour nous quitter, nous séparer.
laisser parler face à la mer, attendant que m'abordent les innombrables équipages d'innombrables navires, flots de marins par vagues roulés sur moi, flux et reflux comme sur une plage monte et descend l'eau, flots de marins soulagés aussi après l'ultime reflux, de barils d'eau douce qu'ils déposent sur l'île à mon attention. Seul salaire dont sont capables les hommes démunis par toutes les pirateries rôdant aux surfaces des océans. Maintenant explosé.
Un cœur rouge.